une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Reste un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et aujourd'hui je vous présente l'un des épisodes sur lesquels j'ai bossé tout seul. Enfin, pas tout à fait seul, c'est un épisode en partenariat avec l'Unedic, vous allez vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui on va parler de stabilisateurs automatiques, de reporting et de légumes bio. L'assurance chômage, vous connaissez son principe. Les travailleurs et travailleuses cotisent dans les périodes où il y a le boss, et en retour, les chômeurs et les chômeuses peuvent avoir des revenus de remplacement. En France, c'est l'Unedic qui s'en occupe, un organisme paritaire, c'est-à-dire géré à la fois par des représentants de salariés et d'employeurs. Sur le papier, rien de très compliqué dans ce mécanisme. Il suffit de profiter des périodes où la croissance et l'emploi sont élevés pour pouvoir financer le surcroît de dépenses quand il y a davantage de chômeurs et de chômeuses. Du point de vue macroéconomique, c'est ce qu'on appelle un stabilisateur automatique. Lorsque l'activité économique est moins soutenue, les déficits se creusent, ce qui permet des revenus de remplacement qui financent la reprise de la croissance et de l'emploi. Oui, mais alors voilà. Depuis les années 80, vous savez que la France se distingue par un taux de chômage important, qui avoisine les 8% en moyenne. Et dans certaines périodes, c'est bien plus. Au milieu des années 2010, une personne sur 10 dans la population active cherchait du travail sans en trouver. Et parfois, c'est encore pire, on est obligé d'arrêter entièrement l'économie en cas de pandémie. Donc, les dépenses de masse salariale sont prises en charge par l'État et en partie par l'Unedic, justement. Rappelez-vous, on en avait parlé en juin dernier avec Coralie Pérez et Oana Calarezo. Dans ce genre de cas, la trésorerie de l'Unedic n'est pas assez fournie. Il faut donc emprunter. Qui pourrait bien lui fournir de l'argent frais? Vous allez voir que ça pourrait bien être vous. Par le biais de vos comptes épargne, une partie de vos économies peut servir à venir en aide à des personnes privées d'emploi ou à celles qui cherchent à en changer. Comment ça fonctionne au juste? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Votre épargne finance-t-elle l'assurance chômage? Pour comprendre comment votre épargne finance l'assurance chômage, il faut, comme souvent dans Splash, prendre un peu de recul historique.
L'Unedic, c'est une vieille dame. Elle a été créée en 1958. Elle a eu recours à la dette depuis de nombreuses années. Alors, je crois que c'était une de vos questions, mais jusque dans les années 90, c'était plutôt des emprunts bancaires. Entre les années 90 et début 2000, c'était un mix entre des emprunts bancaires et des emprunts de marché, des emprunts obligataires. Et depuis le milieu des années 2000, et après la grande crise financière de 2008, en fait, c'est essentiellement des emprunts de marché. La raison, elle est très simple, c'est que dans les périodes de conjoncture économique dégradée, donc quand l'assurance chômage a des besoins, les banques elles-mêmes sont contraintes par la situation économique et doivent aider beaucoup d'entreprises, et donc elles subissent des taux d'intérêt qui sont élevés. À l'inverse, l'Unedic est un émetteur considéré public hein, dans l'écosystème des émetteurs de dettes. Elle va bénéficier en général de taux d'intérêt très bas. Donc l'Unedic a connu des périodes d'endettement et de désendettement.
Je vous présente Jun Dumollard, le directeur financier de l'Unedic. C'est lui qui met en œuvre la stratégie pour trouver du financement en cas de besoin, pas trop cher si possible, et pour honorer les engagements de l'Unedic. À qui celle-ci doit de l'argent, ça dépend. Comme vous l'avez compris, on est passé d'un financement bancaire à un financement de marché. On appelle ça la désintermédiation, et c'est un mouvement général depuis les années 80 en raison de l'ouverture des marchés de capitaux. Et au passage, ça permet de se financer moins cher justement.
Quelque part, au début, comme j'ai évoqué, on était plutôt sur des emprunts bancaires. Mais ces emprunts bancaires, ils étaient difficiles en période de conjoncture dégradée et plutôt simples en période de conjoncture économique favorable. Ce qui conduisait du coup à rendre difficile une gestion et un pilotage financier pour les gestionnaires du régime d'assurance chômage qui visait à mieux protéger quand la conjoncture était dégradée et à alléger le système lorsque l'emploi était plus porteur. Donc, ce qui a conduit finalement à se tourner plus directement vers le marché financier, c'est bien d'établir cette force vis-à-vis des investisseurs et cette confiance de façon plus directe, sans passer par des établissements bancaires, parce que en termes de taux d'intérêt, c'était plus favorable, hein, les taux d'intérêt sont meilleurs en faisant comme ça, mais surtout, au-delà de la question des taux d'intérêt, c'est que ça assure une liquidité lorsque la conjoncture est dégradée, qui permet à l'assurance chômage de réaliser ses missions, un peu comme d'autres émetteurs publics peuvent. On l'a vu hein, pendant le Covid, tous les États européens, enfin tous les États du monde, ont eu un recours à la dette plus accru pour protéger la société. Donc ça, c'est exactement ce modèle de façon beaucoup plus petite et un peu satellitaire qui s'organise au niveau de l'Unedic, c'est de dire au début, on va solliciter des emprunts puisque la question, c'est plutôt de gérer une équipe de long terme. Puis ensuite, ce faisant avec l'expérience, on se rend compte que le secteur bancaire n'est pas en capacité de délivrer quelque part ce service au moment où c'est le plus important. Et donc, c'est bien les gestionnaires du régime, avec le cadrage de l'État, tout à fait construite, qui est organisé pour directement aller chercher auprès des investisseurs les fonds par des obligations pour couvrir ces périodes, puisque c'était mieux en termes de taux d'intérêt et puis surtout faisable pour lever cette liquidité au moment où c'est critique pour soutenir l'économie.
Émettre des obligations, c'est donc faire circuler des titres de dette qui sont faciles à échanger. Pour autant, ça ne se trouve pas dans votre hypermarché. Il y a quand même des intermédiaires, mais des intermédiaires de marché. Ce que vient d'expliquer June Dumollard, c'est que la dette émise par l'UNEDIC est assez proche de la dette publique du point de vue des investisseurs. C'est du solide, avec une signature crédible, et ça circule d'abord auprès de grandes banques, qu'on appelle les spécialistes en valeur du trésor. Une fois qu'elles se sont procurées ces obligations, elles les revendent à qui veut bien les acheter. En particulier des fonds d'investissement qui cherchent des titres liquides et sûrs, même s'ils sont peu rémunérateurs. Ce genre d'obligation, vous en possédez sans doute un petit peu, si vous avez une assurance vie par exemple, ou encore si vous êtes chez Préfonds Retraite, oui c'est à mes collègues profs que je pense ici, dans un portefeuille de titres, c'est la base. Des actifs liquides, peu risqués, et que tout le monde cherche à se procurer, ce qui rend leur prix assez élevé, donc leur taux d'intérêt faible. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle se déroule jusqu'en 2020. Mais alors là...
C'est la catastrophe.
En quelques jours, on décide de fermer les bureaux, les usines et les chantiers, et hop, quoi qu'il en coûte, il faut maintenir 8,4 millions de salariés à flot au plus fort de la crise. Une partie du coût est prise en charge par l'UNEDIC, 11 milliards d'euros. Soit beaucoup, beaucoup plus que d'habitude.
Du jour au lendemain, en mars 2020, le besoin financier de l'assurance chômage est passé de 2 milliards d'euros à une fourchette peu identifiée entre 15 milliards et 25 milliards. Il se trouve qu'en réalité, le besoin était autour de 20. C'était pas trop trompé sur les projections à ce moment-là, et l'économie se fermait et tout s'arrêtait. Donc ce qui s'est passé, c'est que des émetteurs publics ou même des émetteurs privés qui se voient multiplier par 10 un programme de financement obligataire dans l'année, enfin moi je ne connais pas. Et dans ces cas-là, bah forcément on s'expose, hein, c'est comme toujours, même un particulier, si tout d'un coup il va voir sa banque en disant bah, « j'ai besoin de beaucoup d'argent et c'est pas prévu », en général les conditions de financement sont pas bonnes.
Et en 2020, l'UNEDIC avait déjà commencé à travailler sur un nouvel instrument, les « social bonds ». Mais si, les social bonds, les obligations sociales quoi. De quoi s'agit-il ? Ordinairement, une obligation, c'est un simple titre de dette avec une maturité, une durée et un coupon, ce que ça vous rapporte. En contrepartie, on peut donc financer de la R&D, de la formation, le renouvellement d'un parc informatique, peu importe en fait. Est-ce que vous savez ce que l'État français fait de votre argent lorsque vous le lui confiez en achetant une OAT ? Bah vraiment, vous lui faites confiance. Les social bonds, au contraire, ce sont des titres qui correspondent à des engagements précis, à des financements fléchés avec des objectifs explicites. J'en ai parlé avec Laure Madeleine et Cédric Merle qui travaillent au sein de la R&D du groupe Natixis.
Le principe fondamental d'une obligation sociale, c'est que le produit de l'obligation doit être affecté, alors de manière analytique, parce qu'il y a une fongibilité des fonds levés, hein, au niveau de la trésorerie des entités ou des émetteurs, mais il y a une affectation, une sorte d'écriture comptable vers des projets ou des activités délimitées et dont on considère qu'ils ont un impact social fort. En ce sens, il faut flécher les fonds levés vers des activités spécifiques dont on a démontré l'impact social. Et donc, il y a un travail de comptabilité analytique, de fléchage, de mise en équivalence, et ça offre un surcroît de transparence. Et donc, ça permet de savoir, entre guillemets, quelle est l'utilisation, quelle est la destination des fonds levés.
Émettre ce genre de titre, ça suppose de montrer ce qu'on va en faire, qui en bénéficie, avec quels indicateurs de succès en toute transparence. Le cahier des charges qui fait référence en la matière a été édité par l'ICMA, l'Association internationale des marchés de capitaux, et il est régulièrement mis à jour. Sans rentrer dans tous les détails, il y a 4 critères à respecter pour qu'une obligation soit labellisée sociale. L'utilisation des fonds pour des projets à impact social, la sélection et l'évaluation des projets financés qui doit être transparente, idem pour la gestion du financement, et enfin un reporting clair sur la base d'indicateurs de succès du financement. L'impact social positif, ça peut paraître large, mais ça correspond par exemple à des infrastructures d'adduction d'eau, des écoles, de la formation professionnelle ou encore des services de santé. Et les publics visés sont ceux qui manquent de ressources financières en raison de leurs revenus, de leur situation sociale ou de leur handicap par exemple. Financer l'accès à des reconversions professionnelles pour des gens qui en ont besoin mais qui n'ont pas les moyens de le faire par eux-mêmes. Ça pourrait carrément être l'une des missions de l'UNEDIC, ça. John Dumollard.
Bon, il y a la formation, mais il y a plutôt d'autres organismes qui financent la formation, notamment les fonds paritaires de la formation professionnelle, mais également l'État qui fait des efforts en matière de formation qui sont colossaux et qu'il faut saluer. En revanche, l'UNEDIC, elle offre, et l'assurance chômage, elle offre une sécurité qui permet de faire ces formations. D'ailleurs, c'était un des malentendus, ou en tout cas un des diagnostics qu'on avait pu poser avec les investisseurs. Certains nous disaient, mais ouais, vous apportez beaucoup de support aux gens. Nous, on aimerait plutôt financer de la formation parce qu'on voit plus concrètement les impacts sur la société, etc. Une formation qualifiante, elle prend du temps. Pour que quelqu'un ait le temps de suivre une formation, il faut que quelqu'un réponde à ses obligations de payer les factures en fin de mois, de protéger sa famille, de pouvoir avoir le temps d'aller faire cette formation. Et quand il s'agit de populations vulnérables vis-à-vis de l'emploi, ce temps, il n'est pas donné et effectivement, il est très difficile dans la plupart des pays qui n'ont pas des dispositifs tels que l'assurance chômage ou l'ensemble de l'écosystème du riche tissu en France qu'on a vis-à-vis de la formation. Ils n'ont pas le choix que d'aller continuer à travailler dans des boulots précaires, en fait. Parce qu'il faut répondre à l'impératif tous les mois de payer des factures. L'UNEDIC et l'assurance chômage, c'est un vecteur aussi de stabilité de sa situation économique et personnelle qui permet d'envisager même d'aller suivre une formation et si possible, une formation qualifiante.
Donc, de l'impact social positif, on en trouve, par nature, pourrait-on dire, dans les missions de l'UNEDIC. Alors, revenons à la question qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que les social bonds sont une bonne affaire pour l'UNEDIC ? Eh bien parce que ce marché est en pleine croissance. Et oui, même chez les financiers, on commence à se demander si ça ne vaudrait pas le coup de sélectionner des projets qui ont un impact social tangible et prouvé. C'est encore une petite partie du marché obligataire, de l'ordre de 3 à 6% des émissions ces dernières années. Sauf en 2020, où les gros programmes de soutien à l'économie ont emprunté cette voie-là. 24% des obligations émises sur le marché européen étaient alors des social bonds, d'après les chiffres de Natixis. Bref, ce que l'UNEDIC, avec d'autres, a réussi à faire en 2020, c'est rien moins qu'intéresser les financiers aux mécanismes de l'assurance chômage. Des gens qui d'ordinaire se soucient très peu des chômeurs et des chômeuses, et peuvent même avoir des préjugés à leur endroit, se sont mis à regarder de près si ça valait le coup de les financer.
En fait, quelque part, c'est des outils qui répondaient déjà à ce qu'on faisait, qui apportaient encore un peu plus d'informations et qui a permis, nous on le voyait, hein, chez les investisseurs, on l'a vu, pardon, chez les investisseurs de vraiment s'intéresser à la question de l'emploi et aux personnes. Avant, on avait tendance à rester très mécanique, très macroéconomique. Est-ce que vous êtes capable de rembourser ou pas ? Donc, l'attention portait vraiment sur le financier. Aujourd'hui, quelque part, la question de est-ce que vous êtes capable de rembourser ou pas, elle se transforme aussi, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Pourquoi l'emploi se comporte de telle ou telle façon ? Pourquoi d'ailleurs il est résilient en France ? Enfin, vraiment de changer de dimension dans la relation avec nos investisseurs pour les intéresser beaucoup plus au cœur de notre métier, ce qui aurait sans doute toujours dû être fait dès le début, dès les années 90, lorsqu'on a commencé à émettre de la dette. Mais le mérite, finalement, de ces produits a été de les intéresser encore un peu plus dans les échanges et dans la discussion à ce que fait l'UNEDIC, au cœur de ses missions, à ses préoccupations et pourquoi elle les fait comme ça.
À ce stade, vous aurez compris que pour émettre des social bonds et les vendre correctement, l'UNEDIC a besoin de se conformer au fameux cahier des charges dont je parlais plus haut. Il faut trouver des indicateurs de performance, faire du reporting, montrer quelle est la valeur créée. C'est la culture professionnelle de la communauté financière. Et si je me fais l'avocat du diable, on pourrait même craindre qu'en soumettant le financement de l'assurance chômage à une logique de marché financier, on rende celui-ci dépendant du bon vouloir des investisseurs. Pour le meilleur et pour le pire. Comment fait-on lorsque ces derniers réclament des taux d'intérêt plus élevés, par exemple ? Et que se passerait-il si les marchés financiers se détournaient de l'UNEDIC en se disant tout simplement que les titres qu'elle émet ne rapportent pas assez ? Rassurez-vous, on n'y est pas. Du point de vue des investisseurs institutionnels, la dette de l'UNEDIC, ça reste encore très proche de la dette de l'État. Ce sont des titres très liquides, fondés sur des flux de revenus importants et pérennes, la croissance de l'économie française et les recettes fiscales et sociales qu'elle génère. Et si vous suivez un peu Splash, vous savez que celle-ci ne pose pas de problème de financement majeur à ce jour. Et surtout, le caractère contracyclique de ce mécanisme joue pour lui. Quand la conjoncture est bonne, comme en ce moment où le taux de chômage faiblit et le taux d'emploi se redresse, on peut se désendetter et préparer les périodes plus sombres. L'avantage des social bonds, c'est finalement de s'adresser à un marché plus large que celui de la dette publique habituelle, pourrait-on dire. Cédric Merle.
C'est en croissance, c'est-à-dire que l'importance conférée à la dimension sociale ou environnementale va en s'accroissant et toutes choses étant égales par ailleurs, ça peut devenir un critère d'arbitrage. C'est-à-dire qu'entre entre deux émetteurs, entre deux entreprises, celle qui sera dans une vraie dynamique d'effort, qui se donnera des objectifs de résultats, qui fournira toute la transparence, elle sera avantagée. En tout cas, son poids dans certains portefeuilles d'investissement pourrait être accru, tandis que ceux qui traînent des pieds, qui sont moins actifs, etc., pourront soit être désinvestis, soit faire l'objet d'un engagement particulier, etc. Donc, ça devient de plus en plus un paramètre. Et il y a tout un ensemble aussi de, il y a d'autres effets, hein, des discussions sur la supervision financière et bancaire, les exigences en capital des banques, les politiques de collatéral qui visent à prendre en compte la durabilité.
Ça, on vous en a déjà parlé, rappelez-vous, dans l'épisode intitulé « Les banques centrales peuvent-elles sauver la planète ?». Si non seulement des grandes banques se mettent d'elles-mêmes à faire de la finance verte et à acheter des obligations à impact social, mais qu'en plus les banques centrales poussent à la roue, ça peut changer la donne. Alors, conclusion. Oui, votre épargne finance une partie des allocations des chômeurs et des chômeuses. Mais vous aurez compris qu'ici, ce ne sont pas les épargnants et les épargnantes qui sont la force motrice. C'est bien plus la communauté financière. Et ça, ça signifie que son langage, ses exigences et même sa manière de mesurer les performances peuvent déteindre sur les projets qui sont financés. Alors, est-ce que l'assurance chômage va être soumise à des exigences de rendement de la même manière que n'importe quelle société anonyme ? Non, ce n'est pas si simple. S'il y a une chose sur laquelle mes interlocuteurs d'aujourd'hui sont bien d'accord, c'est que l'émission de Social Bonds force les émetteurs à être convaincants, précis et factuels. Est-ce qu'on rend effectivement service aux allocataires du chômage ? Comment et par quel biais ? Il faut pouvoir le démontrer, de la même manière qu'un titre émis pour financer du logement social en Corée du Sud a une exigence de reporting sur le nombre de logements effectivement occupés. Jaune Dumollard.
Si je dois prendre l'analogie, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais avec les légumes, on peut avoir un producteur qui est très très respectueux de tout un écosystème qui l'entoure pour le respecter et avoir une approche durable à son exploitation. Après, la question, c'est est-ce qu'il labellise en bio ou pas, ou dans d'autres types de labels. La labellisation, c'est un cahier des charges, en fait. Donc, c'est de répondre de façon très précise à une approche normative et de garantir par chaque ligne du cahier des charges. Nous, on n'avait pas besoin de répondre à ce cahier des charges pour être convaincus de nos missions et de leur aspect essentiel et contributeur à ces objectifs de très long terme. Mais l'avantage de répondre à un certain formalisme de labellisation nous permet de gagner en maturité aussi sur l'approche de la gestion de ces dispositifs, puisqu'on va nous-mêmes décortiquer des indicateurs, s'interroger, découvrir des choses. Moi, j'ai découvert plein de choses avec mes équipes et salariés, collègues de l'UNEDIC, sur même ce qu'était l'assurance chômage, en faisant l'effort de le regarder un petit peu autrement. Donc ça, c'est un vecteur de progression interne qui est extrêmement intéressant.
Je n'ai pas le temps de vous en dire plus aujourd'hui, j'ai déjà été long. Ce qui va être intéressant à suivre, dans les années qui viennent, c'est le développement de ce nouveau type de financement de marché qui modifie les exigences de gestion de certains acteurs publics. Sans doute pas dans la nature même de leur mission, mais plutôt dans la transparence de l'information financière. En somme, de la même manière que les agriculteurs bio ont appris à faire des levées de fonds et à adopter des normes de gestion venues d'ailleurs. Et dans les années qui viennent, reste à souhaiter que les besoins de financement de l'UNEDIC soient très faibles, parce que ça signifierait que le chômage perd encore du terrain. Bref, mettez votre épargne au service des chômeurs et des chômeuses, mais on espère, le moins souvent possible. Si vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain! Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Emmanuel Martin, prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio, réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jeunin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jeunin avec l'aide de Neyla Agmin.